toujours pareil.
Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça va nous enfin, ça préfigure un tournoi très ouvert. Ça, on l'a déjà dit. Ce tournoi 2023 sera particulièrement ouvert. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'évidemment, il n'y a pas Nadal. On en a beaucoup parlé. Bon, Djokovic souffreteux, on peut le dire. Tsitsipas en plein feuilleton à Modovar avec sa mère. Je sais pas. Alors, qui viendra créer la surprise, à votre avis, dans le tableau masculin ? Alors, à votre bon cœur, messieurs.
Djokovic souffreteux, ouais, non, d'accord, là. Mais il ne faut pas l'enterrer trop vite, quand même.
Non, quand je dis souffreteux, que... c'est parce qu'il a montré quelques signes de fatigue lors du tournoi de Rome, en disant que, de toute façon, il ferait le plein de confiance et qu'il allait tout déchirer, parce que c'est un guerrier. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est peut-être le moment. Il y a peut-être une ouverture comme il n'y a jamais eu avant, avec quelques. Bon, Federer n'est plus là.
C'est vrai que c'est peut-être la première fois depuis. Je ne pourrais pas dire une année précise comme ça, mais depuis le début des années 2000 qu'on est dans cet état-là à faire des listes, qui est dans le premier chapeau, dans le deuxième chapeau, il y a combien de favoris. C'est vrai qu'on en trouve 5-6, ça paraît peut-être pas beaucoup comme ça, mais ça faisait très très longtemps que c'était pas arrivé. C'est vrai, quand il y avait Nadal, Djokovic, Federer, bon, c'était vite fait, on rajoutait peut-être un joueur de temps en temps, mais voilà, c'était vite réglé. Là, c'est un petit peu plus indécis, et puis en plus, tout va dépendre du tableau, parce que Novak Djokovic est numéro 3 mondial.
Ah ouais,
donc,
ça change aussi.
Il peut être dans la partie de tableau de Carlos Alcaraz et ils peuvent se retrouver en demi-finale. Ça, on aura la réponse jeudi à 14h. C'est la date du tirage au sort du grand tableau. Donc, tout va dépendre déjà du tirage au sort. Après, Djokovic, pour moi, je pense que Benoît
reste favori.
Peut-être de mon avis aussi, reste le favori numéro 1 parce que il y a quand même 22 grands chelems. On prend tous les grands chelems remportés par tous les autres joueurs du tableau, on les multiplie par 10, on arrive à peine au score de Djokovic qui en est à 22 grands chelems. Donc vous voyez déjà, il a cette expérience-là qui fait que les joueurs se sentent peut-être battus d'avance quand ils rentrent sur le court face à lui. Et ces dernières années, depuis le début de la décennie 2020, deux joueurs l'ont battu en grand chelem, Nadal, qui n'est pas là cette année, qui avait battu Djokovic notamment l'année dernière à Roland-Garros, et Daniil Medvedev, mais c'était en finale de l'US Open sur une autre surface, sur le dur, la surface préférée de Daniil. Voilà, donc il ne perd plus en grand chelem contre d'autres joueurs que ces deux-là depuis le début de la décennie. C'est hallucinant.
C'est intéressant de parler de Djokovic parce que ça rejoint le premier sujet. Encore une fois, c'est une construction mentale. Djokovic, depuis qu'il a 4-5 ans, a vécu des choses complètement dingues avec la guerre de l'ex-Yougoslavie, où il a été obligé de quitter le Belgrade parce qu'il y avait les bombardements de l'OTAN. Il a été obligé de se cacher dans les caves comme on peut l'imaginer lors de la Seconde Guerre mondiale. Mais on se dit, mais c'est pas possible. Comment un gamin, dans les années 90, peut vivre quelque chose comme ça ? Eh bien oui, il l'a vécu. Et donc, il a été obligé de s'exiler avec ses parents dans les montagnes de Kopaonik pour essayer de ne pas subir cette guerre et ce danger permanent. Et à partir de là, il s'est toujours dit, je veux être devant, je veux être le premier, je veux montrer que la Serbie est un grand pays. Donc, il y a toute une construction mentale qui fait en sorte que ce joueur est capable de résister à tout ce qui peut se passer autour de lui. Donc le petit souffreteux de Djokovic, je n'y crois pas deux secondes. Il va arriver à Roland-Garros en se disant, il n'y a pas Nadal. Donc s'il n'y a pas Nadal, s'il y a quelqu'un qui doit gagner, c'est moi.
Quoi. Et rappelons qu'ils sont à 22 partout dans leur match.
Ah oui, c'est vrai, il y a l'enjeu de la 23e, de la 23e victoire en Grand Chelem.
C'est toute sa vie.
Mais la question, c'est donc la surprise.
Voilà,
est-ce qu'il peut y avoir une surprise ?
Qui ? Ah ouais. Ah, vous pensez, vous n'y croyez pas, la surprise.
La patate chaude.
Ouais. Bah, une surprise, c'était... Non, mais il y a 4-5
joueurs. Qu'est-ce que c'est ? Il viendra troubler, entre guillemets...
Bon, non, mais non, les favoris, voilà, soyons clairs. Il y a Djokovic, il y a Alcaraz, évidemment.
Un peu comme Rune l'an dernier, quoi.
Il y a Tsitsipas, il y a Rune. Bah,
D'accord. Non. Donc, un quart de finale.
Oui, un demi,
demi-finale.
Non, mais Rune, c'est un finaliste potentiel de Roland-Garros.
On pourrait avoir
2023.
Un Rune, un Alcaraz, donc forcément.
Oui. Tsitsipas, Djokovic, Rublev, Medvedev. Voilà, mais est-ce que Medvedev, ce serait une surprise ?
Il y a Giuseppe Tarabino.
Ça, c'est pas des surprises, c'est des gens attendus.
Giuseppe Tarabino est très, très bon.
Ah, voilà, ça, c'est une grosse cote. Mais moi, je veux dire.
Il est de République Dominicaine.
Il est classé combien ? Il n'existe pas.
En fait, il n'est pas né.
D'accord.
Il n'est pas encore né.
D'accord. On est au Camoulox.
Mais non, mais après, imaginons, voilà, une surprise pour qu'à Roland-Garros, il faut que ce soit quelque chose d'énorme. Il faudrait que ce soit une demi-finale. Oui. Donc, qui pourrait arriver en
troubler
demi-finale ?
Troubler leur établi et créer vraiment la surprise. Vous voyez l'effet waouh, quoi.
On a décortiqué le classement avec Benoît juste avant l'émission. On a vraiment tout fouillé. On n'a pas vu un joueur hors du top 30 qui pourrait éventuellement se faufiler dans le dernier carré, voire même en quart de finale.
Ça, c'est une information.
Je ne pense pas qu'il y aura des non-têtes de série en quart de finale cette année. Je n'y crois pas. Peut-être Reid Cheveri, aller chercher du côté des Sud-Américains, des Chiliens, Jarry.
Ou peut-être
des joueurs comme ça à la rigueur. Mais bon.
Davidovich Fokina, l'Espagnol.
Oui.
Pourquoi pas, qui pourrait se faufiler, qui a déjà fait des bons résultats. Mais ça a l'air tellement improbable de voir que ces gars-là pourraient réussir à passer la deuxième semaine.
Rune, l'an dernier, qui l'annonçait ? personne l'a vu
venir. L'année dernière, c'était une surprise. Cette année, ce serait pas une surprise.
Mais oui, voilà. Non, mais donc ça veut dire que c'est possible. Alors que l'année dernière, c'était beaucoup plus fermé, on va dire.
Mais il y a de ça trois semaines à Madrid, on a eu une demi-finale hallucinante. Karatsev contre Struff. Le truc dingue. Je pense que les organisateurs ont dû tirer la tronche. Je ne sais pas s'ils ont rigolé.
Mais ces joueurs-là, ils ne peuvent pas récidiver à Paris. Ce n'est pas possible, par exemple.
Enfin,
cette année, on fête les 20 ans d'une des plus grosses surprises de l'histoire du tournoi. C'était en 2003, Martin Verkerk, un Néerlandais que personne ne connaissait avant le début du tournoi. Il y avait même des tas de journalistes qui ne l'avaient jamais vu jouer, voire même qui ne connaissaient pas son nom. Et il avait atteint la finale. C'est vrai que c'était un joueur qu'on voyait plutôt faire la fête, qu'on connaissait plutôt.
Il n'a rien fait après.
Et après, ça a été très dur à gérer. Voilà, ouais, ça a été totalement fulgurant.
Il était assez connu dans les boîtes de nuit après.
Voilà. D'accord. Il est DJ aujourd'hui.
Je ne sais pas exactement ce qu'il fait, mais comment imaginer. Si on doit sortir des noms comme ça du chapeau pour aller sur une demi-finale, on va penser bien sûr à des Félix Auger-Aliassime, même si ce sont des garçons qui n'arrivent pas du tout à faire des bons résultats sur les dernières semaines, mais qui voilà menaient 2-7-1 contre Nadal l'année dernière en huitième de finale. Donc pourquoi pas un joueur comme ça, solide, qui tout d'un coup tout se passe bien, est en confiance. Pourquoi il n'y arriverait pas? Pourquoi un Alexander Zverev qui était demi-finaliste l'an dernier, qui se brise la cheville malheureusement contre Nadal?
On peut pas vraiment parler de surprise, là, Benoît. Non,
mais oui. Si, ce serait une surprise parce que personne n'imagine Zverev arriver en demi-finale cette année.
Non, mais bon, il l'a déjà fait. Donc
il l'a déjà fait, mais bon, il revient de tellement loin.
On parle de noms méconnus, peut-être.
Un Borna Čoric, voilà, qui nous fait des bons résultats. Mais ce serait tellement dingue d'imaginer qu'ils arriveraient à passer tous ces écueils que sont les Carlos Alcaraz, les Medvedev, les Rublev, les Tsitsipas, les
Djokovic. Le tableau est cadenassé dans tous les sens, en fait.
Ça a l'air dingue. Mais c'est la glorieuse incertitude du sport.
Qui fait qu'on aime
et
ça.
C'est bien pour ça qu'on est comme des dingues au départ de ce Roland-Garros en se disant, mais est-ce qu'il peut y avoir même un moment, pourquoi ne pas rêver, tu vois, d'un Français, en se disant un Français en deuxième semaine.
Ça sera le
déjà,
débat d'après,
ce serait
fou. Vous en gardez sous la semelle, j'allais dire, pour après. Mais donc là, au niveau des étrangers, on a fait le tour.
Lorenzo Musetti, le bel âtre italien, c'est vraiment, alors là, c'est vraiment l'italien dans toute sa splendeur, qui a un jeu absolument magnifique, qui peut rappeler les grandes heures du tennis italien dans les années 70, Panatta, qui avait gagné en 76 à Roland-Garros. Il a un petit peu tendance à se regarder jouer, à se trouver beau. C'est vrai qu'il l'est.
C'est
Mastroianni.
C'est Aldo Maccia.
C'est un mélange des deux.
Non, mais vous m'avez donné envie de le voir, ce joueur.
Céline, vous ne connaissez pas Lorenzo Musetti.
Revers
à Luchin. Voilà, c'est vraiment le beau gosse. Il est jeune. Il a à peine plus âgé que Alcaraz et Rune. Il est de 2002.
Il a 20. Ouais,
il a battu Djokovic à Monte Carlo là, en avril. Hein,
voilà un petit nom à sortir là.
Et il menait en huitième de finale contre Djokovic en 2021 à Roland Garros. Il menait 2-7-0. Donc à un moment, tout le monde se disait ça y est, Lorenzo Musetti.
Bon, et il a perdu en 5-7.
Il avait dû abandonner. Ouais.
Après sa petite copine l'a largué, ce qui fait que pendant 6 mois, il n'arrivait plus à gagner un match.
Ah non, il en a retrouvé une le lendemain. Non,
il a gagné du noir, mais on parlait de ça. Mais il y a ça aussi, on ne se rend pas compte.
Il doit être courtisé ce garçon quand même.
Mais vous savez que Serena Williams, elle l'a toujours dit, elle a vraiment un cœur d'artichaut, elle tombait. Parce
très
que
facilement.
Maintenant, elle a son chéri, ouais. Elle est mariée, elle va avoir un deuxième enfant. Mais elle tombait très vite amoureuse. Et effectivement, quand elle a perdu au premier tour à Roland-Garros contre Virginie Razzano, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, c'était une surprise complètement dingue, cataclysmique. Eh bien, parce que voilà, elle venait de casser son histoire de love avec le garçon avec qui elle était à ce moment-là. Elle était complètement détruite dans la tête. Donc ça rentre en considération.
À l'inverse, pourquoi Noah a gagné en 83? C'est lui qui le dit, c'est pas moi qui l'invente. Parce qu'il était amoureux à ce moment-là d'une Américaine avec qui il est resté 6 mois, mais il était tellement heureux,
voilà,
dit-il, que c'est pour ça que j'ai gagné.
Voilà. Bon, bah, c'est bien, ça c'est quand même l'info, c'est les gossips, quoi.
Mais ça peut expliquer tout.
C'est ce qu'on avait envie d'entendre ce soir, de la part de super spécialistes comme vous.
Je vais le dire, parce que de toute façon, ça va être sorti.
21h25, vous pouvez.
Voilà, avec ces histoires de 40 ans de Yannick Noah, sa dernière victoire à Roland-Garros, de toute façon, il va y avoir des milliards et des milliards de sujets sur lui.
Et un podcast absolument génial qu'on a fait sur Europe 1 avec Jacques Vendroux, qui est allé le voir à Etoudi, dans son village.
C'est évident, bien sûr, le Jacques,
il y est allé.
Et en fait, Yannick Noah, à un moment, disait aux joueurs français, quand il s'en occupait un petit peu, que ce soit en Coupe Davis ou même quand il essayait de leur donner des conseils, il dit, mais pourquoi tu vas sur un court de tennis? C'est pour gagner? Bah oui, c'est pour gagner, oui. Mais alors, c'est quoi ta motivation? C'est pour gagner? Bah oui, c'est pour gagner. Et tu crois que ça va suffire? Ça va te porter, ça va te permettre de gagner vraiment contre les tout meilleurs? Bah oui, je crois. Mais non,
il faut gagner pour quelqu'un.
Il faut... Voilà, regarde dans le public. tu regardes et tu trouves la plus belle fille, la plus belle femme que tu puisses voir dans les gradins, tu la regardes deux secondes et tu te dis, je vais gagner pour elle et elle va devenir folle de moi. Et ben ça, ça va être ta carotte, c'est ce qui va te permettre d'aller au-delà de ce que tu peux faire sur un court de tennis.
Ouais, ça c'est du coaching gagnant. Ouais, en tout cas, ça marche pour lui.
Ça a marché pour certains.